Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Bibard avec qui nous allons parler d'incertitude, de leadership et d'organisation. Laurent est philosophe, professeur et responsable de la filière management et philosophie à l'ESSEC. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent, pour te présenter, est-ce que tu peux nous parler de cette filière management et philosophie, ces deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir combiner ensemble?
Il y a une manière très simple de le présenter, c'est que le management est la science des réponses, la philosophie est l'art des questions. Et en gros, si on ne pose pas les bonnes questions, ben on est sûr qu'on n'ira pas dans la bonne direction. Et si on ne donne jamais de réponse, on est également dans le vide. Donc en gros, il faut les deux pour vivre correctement. Donc la chaire management et philosophie a pour intention, pour ambition de donner aux élèves les moyens, à la fois sur la base de ce qu'ils apprennent à l'ESSEC, d'apporter les bonnes réponses, mais aux bonnes questions. Donc, on veut leur donner tous les moyens de poser les bonnes questions. Et ça veut dire de regarder à long terme, de regarder vaste, de regarder, comme on dit en anglais, the whole picture, les choses dans leur ensemble.
Ouais, c'est une grosse pression, parce que normalement, j'imagine que si on avait séparé les questions des réponses, c'était peut-être qu'il y avait une raison, quoi. C'était, là, tu te rajoutes une grosse ambition, quoi.
Oui, mais on est dans un monde très court-termiste, hein. On n'est que dans les réponses. On ne sait même plus à quelle question on répond et on ne sait plus quel problème on résout. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en gros, on vend des solutions partout. Mais on ne sait même pas à quel problème elles se rapportent. Des solutions pour quoi ? Quel problème on pose ? On ne sait plus. Et donc, c'est capital qu'on le sache. En gros, qu'on voit émerger la crise du climat derrière celle du Covid, eh ben, ça fait poser les bonnes questions, quoi. À quoi sert ce que nous faisons et vers quoi nous allons ? Donc ça, c'est capital qu'on s'exerce à prendre du recul.
Ben, on enregistre là, on est en juillet 2021, période vraiment particulière. Hein. Toutes les vannes viennent de se rouvrir à nouveau, comme l'été dernier. Ça fait 15 mois qu'on traverse une crise Covid. Qu'est-ce que ça nous apprend là sur et quelle influence toi ça a eu sur ton travail, justement cette approche philosophique de la question ?
Alors, moi, j'aime bien formuler de la manière suivante, qui évidemment est absurde, hein, si on le prend au pied de la lettre. Mais en gros, il n'y a pas de crise. La crise est d'avoir cru qu'il n'y aurait plus de crise. En gros, l'énorme problème, c'est que depuis l'effondrement du mur de Berlin, en particulier, pour plein de raisons, le monde entier est devenu naïf et on a cru qu'on mettrait le monde sous contrôle. Qu'on mettrait la nature humaine et non humaine sous contrôle. Les nouvelles technologies jouent beaucoup dans cette illusion et cette naïveté. Et on pense qu'on va tout maîtriser, que tout va aller bien, qu'on est dans un monde sécurisé, etc. Contre tout bon sens, hein. Les crises se multiplient, il y en a plein tout le temps. Mais on a voulu faire l'autruche. Et pas seulement en Occident, le monde entier. Là, le Covid, il a sidéré le monde entier. Et on s'est dit, ah zut, il y a un truc là. On s'est réveillé un peu. Mais il faut voir combien on se rendort vite. C'est-à-dire que plus on avance, plus on rêve de revenir à un monde comme avant. Ça n'a aucun sens. On ne reviendra jamais à un monde comme avant. Le monde, il est en crise tout le temps. Juste un point d'étymologie, le mot crise, en grec, veut dire un changement qui requiert une décision. Mais on est tout le temps en crise. Que ce soit des crises mineures, toutes petites, sans signification majeure, ou que ce soit des crises majeures. Mais on est tout le temps en train de devoir prendre des décisions. Rêver qu'il n'y a pas de décision à prendre, c'est rêver de se défaire de nos responsabilités. Donc se déshumaniser, ça n'a pas de sens. L'anomalie est d'avoir cru, pendant bien 40 ans, qu'il n'y aurait plus de crise. Et en fait, les crises, elles sont permanentes.
Quel impact ça a eu, toi, sur les populations que tu fréquentes au quotidien ? Alors, d'un côté, les étudiants, puis j'imagine aussi les chefs d'entreprise dans les organisations. Qu'est-ce que tu as pu observer ?
Alors, deux choses. De la part des étudiants, beaucoup, beaucoup de questions de fond et une présence très, très délicate en distanciel dans les cours. Hein. C'est très compliqué, mais en revanche, j'ai exigé des travaux individuels pour m'assurer qu'ils suivaient les cours. Les rendus sont remarquables, un degré d'engagement exceptionnel. Et pour les entreprises, j'ai été énormément sollicité, je suis consultant par ailleurs, et ça, c'est le métier classique des profs en école de gestion. Les entreprises, tout à fait impressionnées par la réactivité des équipes. C'est-à-dire, beaucoup de directions m'ont dit, la grande majorité m'ont dit, des équipes à qui nous ne croyions pas ont réagi de manière exceptionnellement efficace, positive, résiliente par rapport à la crainte qu'on a eue pendant la crise. Il y a eu quelques directions qui m'ont dit, des équipes auxquelles nous croyons beaucoup se sont montrées beaucoup moins efficaces que ce qu'on pensait. Il y a eu aussi ce cas-là, mais bien minoritaire par rapport aux bonnes surprises. Donc en gros, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut faire beaucoup plus confiance que ce qu'on croit, en général, j'allais dire en l'humanité en général, mais dans les entreprises en particulier.
Et pour toi, est-ce qu'il y a un cap qui a été passé, une prise de conscience qui a été effectuée, réalisée là, par rapport à il y a 15 mois ?
On peut jamais rien tenir pour acquis. En gros, on a tellement besoin, et c'est pas du tout un reproche, c'est un constat. On a tous besoin de sécurité, de confort, d'un minimum de bonne humeur, quoi. Et du coup, on a une tendance assez spontanée à se réadosser à des trucs qu'on tient pour acquis. On dit, allez, c'est évident, c'est fait, c'est réglé. On revient à comme si c'était avant. Et donc, on peut pas tenir pour acquis l'apprentissage. Il faut sans cesse réapprendre que nous sommes constamment en crise. Et c'est pas grave. C'est-à-dire être dans la crise, être dans l'incertitude, c'est pas du tout un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde l'incertitude, ça fait peur à tout le monde. Mais l'incertitude, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, ça peut être le plus grand bonheur. On peut pas du tout, de manière fondée, présupposer que ce qu'on ne connaît pas, ça n'est qu'une catastrophe. L'ignorance relative à l'incertitude, elle peut être une ignorance relative à des chances. Et ça, on ne l'a pas du tout assez en vue. Quand on tombe amoureux, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, quand on recrute quelqu'un de nouveau, qu'on est ébloui de la rencontre et de la compétence des gens, mais c'est magnifique. Et au début, c'est de l'incertitude. On ne se connaît pas et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave.
L'incertitude, c'est un sujet... c'est une conséquence de la complexité du monde, hein, si j'ai bien compris ton travail.
Oui, tout à fait, absolument.
Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le monde complexe ?
Un monde complexe, c'est tout simplement le monde collectif où nous vivons. L'origine du mot complexus, c'est un tissu. Et le tissage, pour les anciens, c'était le symbole de la vie humaine collective. Et il n'y a pas de vie humaine qui ne soit collective. Même si on est individualiste, on l'est sur le fond d'une vie collective. Et en gros, il n'y a pas de vie humaine qui ne soit vécue dans la diversité des humains que nous représentons. Et bien, la complexité, c'est tout simplement la vie humaine. Et du coup, c'est tout bête, hein ? Le monde a toujours été complexe. On croit qu'il l'est encore plus, etc. Peut-être, du fait de l'hyperconnectivité, d'informations qui circulent à la vitesse de la lumière, tout ce qu'on veut. Mais le monde a toujours été complexe. Et du coup, si on découvre ça avec un peu de bon sens, on peut apaiser la complexité. On rajoute beaucoup de complexité à s'angoisser de la complexité. Il faudrait qu'on en parle moins et qu'on vive avec un peu plus de bon sens. C'est-à-dire avec un peu plus de mots simples, les moins spécialisés techniquement possible, hein, qu'on utilise la langue naturelle et qu'on s'écoute beaucoup plus qu'on ne le fait. Nous ne nous écoutons pas du tout suffisamment.
Alors tu dis que le monde a toujours été complexe, mais pourquoi on a l'impression qu'on a envie de se comporter comme si le monde était simple ? Et est-ce que tu peux me définir aussi par opposition du coup à ce monde complexe, qu'est-ce que c'est que le monde simple ?
D'abord, une première chose, et tu as raison, on voudrait que le monde soit simple et c'est fondamentalement légitime. Et on ne comprend rien à la complexité, à la véritable complexité, si on ne met pas en face de l'observation que le monde est complexe, donc incertain, comme on le disait tout à l'heure, hein, que, en même temps, vous et moi, toi et moi, on a besoin de simplicité. Et c'est pas du tout un problème. On peut pas se jeter la pierre pour ça. Le grand danger, c'est quand on est simplisteux. Le simplisme, ça consiste à faire comme si le monde n'était pas complexe. L'idéal, c'est d'arriver à se dire, OK, le monde est complexe. Le monde est incertain. Il y a des milliards de choses qu'on ignore complètement et ça n'est pas nécessairement un problème. Au contraire, ça peut être une chance. Et en même temps, on a besoin de s'adosser à des choses simples, familières, qu'on connaît, d'être dans une zone de confort minimum pour avoir un peu de bonheur, un peu de plaisir. C'est parfaitement légitime. Et donc, l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre notre besoin de sécurité, de paix, de tranquillité, de jouissance, de partage avec des amis et tout, et en même temps de savoir qu'on ne sait pas. Et on se met bien en route dans ce bon équilibre en se disant, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on ne sait pas n'est pas du tout seulement un problème. Ce qu'on ne sait pas, ça peut être des chances. Encore une fois, on dit par exemple, hein, on tombe amoureux, mais tomber amoureux, on aime bien ça parce que c'est du bonheur qui vient. Ça peut faire très mal, c'est vrai, mais tomber amoureux, c'est aller vers l'inconnu. Rencontrer de nouveaux amis, c'est aller vers l'inconnu. Rencontrer de nouveaux collègues futurs qu'on recrute, c'est aller vers l'inconnu. Et on ne sait plus aller vers l'inconnu, c'est on en a peur. C'est une erreur fondamentale.
Et t'as dit quelque chose là tout à l'heure, c'était zone de confort. Tu peux me dire ce que c'est que la zone de confort ? Parce que c'est un mot que j'ai l'impression un peu galvaudé, on l'entend à toutes les sauces. Dans ton bout, ça veut dire quoi, zone de confort ?
C'est ce qu'on connaît déjà. Tout ce qu'on a déjà fait, tout ce dont on est familier, tout ce qu'on répète, c'est une zone de confort. Et nous avons une tendance spontanée, toi et moi, n'importe qui, hein, à nous adosser à ce qu'on connaît déjà pour vivre. Et c'est normal, parce que c'est comme ça que la vie est simple, parce qu'on fait des trucs déjà familiers. Mais l'ennui et le risque, c'est que du coup, ça nous aveugle sur les vraies nouveautés. À la fois les problèmes qu'il faudrait savoir anticiper, à la fois les chances qu'il faudrait savoir saisir. Eh bien, si on n'est que dans la zone de confort, on ne voit pas venir les problèmes et on loupe des chances. Ça, c'est un peu dommage. Parce que si on ne voit pas venir les problèmes, on ne se prévient pas, hein, des problèmes. Et si on loupe des chances, eh ben c'est dommage, quoi.
Non, mais c'est quand même pas mal parce qu'au moins, je fais ce que je sais faire et je le fais bien, du coup.
Oui, mais si je ne fais que ça et que le monde change vraiment, je risque de me planter grave. Là, pour le coup, sérieusement, je m'excuse de formuler trivialement. Mais si, par exemple, hein, je conduis et je sais qu'à un carrefour, il n'y a jamais personne, je finis par ne pas regarder au carrefour. Tu vois ce que je veux dire, hein ? J'avance comme si de rien n'était dans ma zone de confort et un jour, il y a quelqu'un. Eh bien, là, c'est fini. Et donc, il est capital de regarder en temps réel la vraie vie. Il y a un mot de René Char que je trouve magnifique, hein, je vais le citer brièvement, mais il est splendide. « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Mais ça veut dire « sois vigilant tout le temps sur ce qu'il y a de neuf qui arrive, que ce soit un problème ou une opportunité. » Donc à la fois, il nous faut être adossé à une zone de confort, on en a un besoin vital. Si on n'a pas de zone de confort du tout, on devient fou. Donc on a besoin de zone de confort. Et en même temps, c'est capital d'être tout le temps ouvert à ce qui vient de nouveau. Et si on arrive à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire l'équilibre entre ce qu'on connaît déjà et l'ouverture à l'inconnu, mais là, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie.
Comment tu fais pour... Donc là, depuis tout à l'heure, on se positionne un peu sur l'individu, puis individuellement, on est capable d'avoir ce travail-là, d'avoir cette prise de conscience. Comment tu fais pour distiller ça à l'échelle d'une organisation ? Et là, on pense à tous les managers, à tous les leaders qui doivent tirer ça dans leur organisation. Comment on fait ?
C'est tout aussi collectif, ce que je t'évoque maintenant. Et comment on fait pour le rendre collectif ? Proposition. Une observation d'abord. Tu as remarqué qu'on ne parle jamais de ce que l'on sait faire ? Quand les choses roulent, on les tient pour acquises. Du coup, on les néglige. On fait comme si on ne parle que des problèmes et du futur. On ne parle jamais de ce qu'on sait déjà faire. Et du coup, nos zones de confort nous deviennent de plus en plus obscures. C'est des points aveugles. Elles deviennent le point d'appui. On est posé dessus et du coup, on ne le voit pas. Eh bien, un exercice très simple, extrêmement puissant pour ne jamais perdre le contact avec le présent, c'est paradoxalement de parler de ce que l'on sait faire, c'est-à-dire d'exhumer nos zones de confort de l'espèce de silence inconscient où on les met. Si on tient pour acquis ce qu'on sait déjà faire, on finit par l'oublier. Et du coup, on est adossé à des trucs, on ne sait plus quoi. Mais en fait, si on en parle, et c'est ce que font les grandes organisations archi-résilientes, par exemple, les blocs opératoires dans les hôpitaux, par exemple, les services d'armée, par exemple, les pompiers, etc., ils parlent non pas seulement de ce qu'ils ratent ou de leurs projets, ils parlent aussi de ce qu'ils réussissent. Débriefer des succès, c'est extrêmement puissant pour rester en contact avec la vraie vie, parce qu'on ne s'adosse plus à des choses qu'on tient pour acquises inconsciemment. On reste lucide. Et du coup, en restant lucide avec le passé, qu'on connaît déjà, avec nos zones de confort, on reste lucide avec le présent et avec le futur. Et on est beaucoup plus ouvert à l'inconnu. C'est paradoxal, apparemment. Hein,
ouais, quand tu dis débriefer, c'est à l'oral ou il faut formaliser des choses ? Il faut qu'il y ait une sorte de bible un peu des savoirs et des savoir-faire qu'on formalise ?
J'aime bien ta formulation. J'aime bien ta formulation parce que dès qu'il y a une Bible, c'est foutu. Je ne parle pas des religions, là. Hein. Je veux dire que dès qu'il y a un truc écrit et qu'on se conforme au protocole écrit, ça devient du réflexe inconscient. Et donc, c'est plutôt à l'oral. Proposition, c'est débriefing en petits comités, il y a des petites équipes qui débriefent une journée, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait qui a marché ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait qui ne marche pas ? Quels projets on a ? Mais surtout, on inclut aussi ce qui a marché. Moi, j'aime beaucoup formuler, comme des collègues consultants le formulent, c'est quoi nos points forts et c'est quoi nos points d'effort ? Eh bien, quand on travaille sur nos points forts et nos points d'effort au jour le jour, on reste alerte. On reste, comme on dit actuellement avec un mot valise, agile. On reste flexible. On reste conscient et lucide sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on ne sait pas faire. Et du coup, on reste à la fois modeste et confiant. L'humilité et la confiance, c'est les deux mamelles du succès, de la vigilance de tous les jours. Humilité et confiance. On peut se faire beaucoup plus confiance que ce qu'on croit et on devrait être beaucoup plus humble que ce qu'on est d'habitude.
Et donc tout ça, c'est un premier conseil, il y a une première activation concrète. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui. Ben, l'autre, elle est sous-jacente à ce que j'ai dit, c'est que qu'on s'exerce à parler de manière simple de nos opérations pratiques concrètes. C'est-à-dire que je reviens sur ce point qui est capital. C'est essentiel d'observer que ce que nous savons faire dans les entreprises, hein, n'importe quelle taille d'entreprise, et les individus, ce que nous savons faire, on a tendance à ne plus en parler, on utilise nos compétences, mais on n'en parle plus. Alors qu'on a appris depuis la naissance, hein, tous les humains, on apprend depuis qu'on est né parce qu'on n'a pas les moyens de vivre spontanément, on n'a pas d'instinct. Donc on doit tout apprendre. On a une masse de compétences gigantesques et on n'en a pas conscience. Malheureusement, par exemple, les cas de folie, c'est des gens qui perdent toute compétence spontanée. Plus rien n'est évident. Enfin, tout devient un combat, comme dit très bien Francis Cabrel en parlant de la folie. Tout devient un combat. Mais si tout devient un combat, on devient dingue. On ne peut pas. Et donc, on tient des choses pour acquises, ce qui est bien. Mais en même temps, quand on tient tout pour acquis et qu'on ne réfléchit plus à ce que l'on sait faire, on l'oublie. Et du coup, on est très inerte, on est envahi par ce qu'on sait faire, on n'y pense plus. Tandis que si on se remet à parler de nos compétences, comme on dit en entreprise, de nos meilleures pratiques, si on en parle vraiment, c'est-à-dire si on en parle avec soin, avec précision, tu demandes à un ouvrier dans un atelier comment il fait pour présenter telle pièce, pour la faire bien s'enclencher avec le truc où elle doit rentrer, le type il essaye de te parler, de t'expliquer comment ça marche, ça n'a rien d'évident, parce que le faire c'est facile, mais le dire c'est devenu complètement non évident tellement on l'a oublié, eh ben, tu fais parler les gens au quotidien sur le travail sur le terrain, eh ben ils réapprennent à comprendre leur travail, ils prennent distance, ils prennent du recul, ils voient l'ensemble d'une situation. Et là, on est dans de la philo au sens voir l'ensemble d'une situation, poser les bonnes questions, prendre distance avec le réel, ne plus être mangé par le court-termisme, ne plus être dans le simplisme, être dans la simplicité, mais avoir conscience de ce que l'on fait. Et là, on sait du coup affronter l'incertitude. Autrement dit, on passe la parole aux gens et ça leur donne les moyens de prendre du recul et de poser les bonnes questions pour eux-mêmes et pour les autres, collectivement tout autant qu'individuellement.
Donc c'est une conséquence en fait. La prise de distance, elle provient de cette mécanique-là autour de la prise de conscience de nos compétences. C'est ça ?
Et exactement, Rémi, et qui passe par de la communication, par expliciter ce que l'on sait faire. Et du coup, quand on remet en langage nos pratiques vécues, alors on devient beaucoup plus ouvert aux autres et on devient intelligent collectivement. C'est très puissant comme outil.
Mais alors, d'un point de vue...
Ça paraît tout bête, hein, mais c'est très
puissant. Mais d'un point de vue très concret, par contre, ça sous-entend des petits sous-ensembles dans une grande organisation.
Et ça sous-entend aussi d'accepter de perdre du temps, je mets des guillemets, hein, d'accepter de prendre du temps pour parler de ce que l'on sait faire, donc de nos succès. Et d'habitude, on ne parle pas des succès puisqu'on se précipite vers l'avenir et vers le fait de pallier les défaillances. Et on ne s'aperçoit pas du coup qu'on a des tonnes de compétences en route et comme on les oublie, ben on les perd. Tandis que si on garde le contact avec les compétences, on les déploie, on les corrige, on les réoriente, on change avec bonheur. La raison pour laquelle on a si peur du changement, c'est qu'on ne parle jamais de ce qu'on sait déjà faire. Dans les grandes entreprises, vous avez des tas de gens qui vont vous dire « il faut changer !» Et ça fait comme si on jugeait tous les gens comme s'ils étaient nuls jusque-là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est tous adossés à des milliards de choses qui marchent impeccablement. Et donc si on disait « c'est génial ce qu'on sait faire là, mais il faut changer parce que… » Eh bien là, tout le monde y va. Il n'y a plus de peur. Et qu'il faille changer est une évidence, hein. Le monde change tout le temps. Donc il faut changer. Mais si on le fait sans reconnaître le sol sur lequel on est posé, qui est fait de nos compétences, comme par exemple à la technique, ben, tu as des gens compétents avec toi, on parle ensemble, toi tu as tes compétences d'intervieweur, moi j'ai mes compétences d'expert, on a tous des compétences. Mais si on les néglige, eh ben, on ne peut pas s'élancer. En gros, il n'y a pas d'élan sans appui. Et notre appui, c'est ce qu'on sait déjà faire. Et là, si on reconnaît l'appui, alors on peut s'élancer vers le futur.
Et comment on fait pour s'élancer vers le futur quand on est focalisé sur le court terme, comme en ce moment, comme depuis 15 mois, parce que bah, y a des choses à gérer pour sortir de là, pour se sortir de là, et que tous les jours, il y a de l'incertitude et de l'inconnu. Comment on fait pour se projeter dans le futur ?
Mais bien sûr, Rémi, mais ce n'est pas depuis 15 mois qu'on est court-termiste, c'est depuis que l'humanité est advenue. On a tous tendance à être court-termiste et dans l'angoisse, parce que, en gros, c'est quoi le monde de l'économie ? C'est le monde de la nourriture. On a oublié ça, hein. Mais oikonomos, c'est fournir les moyens pour se nourrir. Donc nous, les humains, on a besoin de manger. Il y a malheureusement des milliards de gens qui crèvent de faim tous les jours. Et donc, on peut très bien comprendre, le court-termisme, c'est qu'est-ce que je mange aujourd'hui et est-ce que je vais pouvoir manger. Donc, c'est légitime. En revanche, le gros problème, c'est quand on est court-termiste par angoisse pour répondre aux attentes des autres, qu'on ne prend pas le temps de lever le nez du guidon, etc. Et du coup, plus on veut répondre aux attentes de tout le monde, moins on a de temps. Plus on est inféodé aux attentes des autres, moins on a de temps. Si on prend le temps de s'arrêter régulièrement, de lever le nez du guidon, de repérer nos priorités, du coup, de repérer ce qui compte et de différencier entre l'important et l'urgent. L'urgent, c'est les attentes des autres. L'important, c'est vraiment ce qui compte, c'est les priorités. Eh bien, si toi et moi, on priorise, c'est tout à fait stupéfiant comme on va avoir du temps de nouveau. On ne va pas être noyé dans les attentes des autres. Et les réseaux sociaux ne facilitent pas cette prise de distance. Parce que à être connecté tout le temps, on bavarde tout le temps et on ne communique pas. Bavarder et communiquer, ce n'est pas la même chose. À être connecté tout le temps, on est tout le temps déconnecté des véritables priorités. Et mon propos n'est pas de ne pas aller sur les réseaux sociaux, c'est d'y aller avec pertinence. Et donc, de temps en temps, se déconnecter complètement et se poser la question à nous-mêmes, mais c'est quoi le plus important ? Qu'est-ce que je dois prioriser ? Et là, on peut retourner voir les autres en disant, hé, les cocos, moi je priorise ça, ça, ça. Et tant pis pour vous, hein. Si vous avez d'autres options, bah, convainquez-moi. Mais on est inféodé à court terme tout le temps à l'angoisse de ne pas répondre aux autres, et on a tort. Le manque de temps, c'est le désir des autres. Eh bien, il est légitime ce désir des autres, mais réavoir du temps, c'est accorder l'importance aussi à la manière dont nous estimons qu'il faut prioriser. Nous vivons nos vies, hein, pas celles des autres. Et c'est toi et moi qui allons mourir un jour, et ça serait bien qu'au moment où on meurt, on se dit « Eh bien, j'ai pas raté ma vie, j'ai priorisé ce qui me semblait le plus important. Je peux m'être trompé, mais en tout cas, j'ai essayé. » Et ça, c'est le plus capital.
Laurent, un grand...
Ça vaut autant dans le milieu du travail que la vie personnelle. Hein. Ça vaut partout, ça. Oui, excuse-moi.
Non, mais c'est une belle leçon de philosophie de vie, concrète et applicable. Un grand merci pour cet échange, Laurent. L'ambition... Et oui, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Le temps passe trop, trop vite. C'est
court terme.
Ouais, bah c'est court. Alors, on fait des épisodes courts pour que les gens aient le temps de les écouter. C'est pas tellement le temps une fois qu'ils sont dedans, mais c'est quand ils sont sur leur application de podcast et qu'ils se disent combien de temps il faut que je lui donne à cet objet sonore. Et on s'est dit 20 minutes, ça va, ça se gère, n'importe quel temps de trajet. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de faire court, mais des fois, c'est très court. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui aimeraient faire un premier pas vers la sortie de leur zone de confort ?
Deux choses hyper vite. L'origine du mot bonheur, c'est saisir sa chance à la bonne heure. Donc le bonheur, c'est exigeant. Eh bien, il y a un philosophe qui dit « Le premier devoir de l'homme est d'être heureux. » Et pourquoi ? Parce que quand on est malheureux, on ne répand que du malheur. Donc, soyez heureux, saisissez vos chances, faites comme René Char le recommande et ils s'habitueront. Voilà.
Mais ça résonne avec le propos de Philippe Gabillier, que tu dois bien connaître, avec qui on a fait un épisode aussi. Alors, on a parlé d'optimisme, on a parlé de chance, on a parlé de tout ça. Et donc, ça résonne beaucoup avec ce propos. Moi, j'y suis très sensible. Un grand merci pour ce moment d'échange, Laurent. Et on est
merci,
à creuser à l'occasion à nouveau. Je te dis à très bientôt.
Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.